Avant de continuer, je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons que ta parole est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice afin que nous soyons adaptés et préparés à toute œuvre bonne. Permets-nous de recevoir la sagesse de ta parole aujourd'hui, Seigneur, et d'appliquer ce texte à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les brebis sont perpétuellement en danger de mort, coincées entre la menace des éléments de la nature et des prédateurs. Elles sont constamment en péril à cause des voleurs, à cause des étrangers, à cause des loups et des autres choses comme ça. Et nous, comme les brebis, nous sommes dans une situation similaire. Mais le problème pour nous, c'est que ces dangers ne sont pas très faciles à reconnaître. Comment reconnaître un loup quand il est déguisé en moniteur d'école de dimanche? Comment reconnaître un faux prophète déguisé en pasteur? Ou un étranger qui cherche à détruire l'Église, mais qu'il est déguisé en ancien, en membre du conseil d'administration ou en pasteur stagiaire? Est-ce que c'est évident? Les méchants ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Par exemple, comment reconnaître un meurtrier dans la rue? Comment reconnaître un cambrioleur, un malfaiteur, un voleur? Comment identifier un enlèveur d'enfants ou un violeur? Ce n'est pas évident. La semaine dernière, nous avons étudié Jean chapitre 10 qui parle de Jésus le bon berger. Nous avons vu trois choses qu'il fait en tant que berger. Le bon berger est notre Seigneur, le bon berger est notre Sauveur et le bon berger est notre soutien. Personne ne peut arracher ses brebis de sa main. Ça, c'est les idées principales de ce texte. Le bon berger, ça, c'est vraiment l'idée principale de ce texte. Mais aujourd'hui, on va revenir sur ce texte et on va voir en particulier quels sont les quatre dangers qui menacent les brebis. Ce sont les quatre dangers qui menacent la vie spirituelle des chrétiens. Il y a donc quatre personnages dangereux qui sont mentionnés dans ce texte. Il y a le voleur, l'étrangère, le mercenaire et le loup. Encore une fois, je voudrais souligner le fait que ce texte est une métaphore, un genre de parabole. Mais chaque élément est mentionné pour une raison précise. C'est pourquoi je trouve utile d'examiner individuellement chaque élément de cette métaphore. Comme je l'ai dit, Jésus mentionne chaque personnage pour une raison précise. Il les mentionne chacun afin de dresser un contraste entre eux et le bon berger. Mais pourquoi est-ce que Jésus mentionne ces dangers? Dans quelle mesure sont-ils importants pour la métaphore? Que représentent ces dangers par rapport à notre situation aujourd'hui? Eh bien, en tant que chrétiens, nous avons la menace des faux prophètes, du légalisme, des tentations du monde, et ainsi de suite. Nous avons besoin, nous aussi, de bons bergers. Dans ce texte, Jésus nous avertit contre quatre dangers particuliers, mais il le fait avec deux buts principaux. D'abord, il veut dénoncer ceux qui menacent ses brebis. Et ensuite, il veut affirmer clairement que son appel et sa protection destinés à ses brebis sont plus forts que la menace des méchants. Les reproches de Jésus dans ce texte sont dirigés contre tous les faux prophètes, les faux bergers, les autorités religieuses égoïstes et ceux qui veulent blesser son troupeau. Alors, Jésus commence par introduire un premier personnage, le voleur ou le brigand. Ce personnage est décrit comme quelqu'un qui veut blesser les brebis. Il est mentionné dans trois versets, à commencer par le verset 1. Dans ce verset, le voleur est décrit comme quelqu'un de malhonnête. Il n'entre pas par la porte. Le bon berger, il entre par la porte, mais le voleur, non. Au verset 8, il représente tous les malhonnêtes qui sont venus avant Jésus. Le verset 10 développe un peu plus cette idée. Le voleur vole, bien sûr, mais il tue aussi et il détruit. Sa mission n'est pas constructive, mais au contraire, elle est destructive pour la vie des brebis. Mais qui est ce voleur? Jésus parle de qui dans ce texte? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible qu'il parle des prétendants messianiques, ceux qui avant Jésus ont prétendu être le Messie. Mais je vous propose une autre idée. Après tout, qui sont les perturbateurs qui suivent Jésus de ville en ville et qui cherchent à saboter son ministère? Qui sont les gars qui essaient de piéger Jésus avec des questions hypocrites et des fausses accusations? Qui sont les leaders de peuple qui regardent les autres de haut? Ah oui, ce sont nos amis, les pharisiens, les autorités religieuses, les gars qui connaissent leur Bible par cœur et qui ont toutes les bonnes réponses. Les hypocrites, dit Jésus. Dans Matthieu 23, les aveugles, les insensés qui parcourent la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il est devenu, qu'est-ce que les pharisiens en font? Ils en font un fils de l'enfer deux fois pire qu'eux. Les pharisiens sont tombés dans un des deux grands abîmes dans la vie spirituelle. En tant que chrétiens, nous marchons sur un chemin très étroit. D'un côté, nous avons l'abîme du légalisme. De l'autre côté, nous avons l'abîme de la mondanité ou de l'immoralité. Pour les légalistes, la vie spirituelle n'a rien à voir avec la repentance et la foi en Jésus. Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Pour eux, la vie spirituelle est une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ne mange pas ça. Ne bois pas ça, ne va pas là, ne parle pas comme ça, ne t'habille pas comme ça, ne regarde pas ceci, n'écoute pas cela. Ils ont une liste de règles. Et si nous ne les suivons pas, nous sommes étiquetés personnes non spirituelles, ou non chrétiennes, ou non bibliques. Imaginez un jeune garçon qui, dans une aire de jeu, il est dans une aire de jeu, mais avant d'aller jouer, sa mère lui dit « Ne touche pas aux jeux parce qu'ils sont dangereux et ne joue pas avec les autres enfants parce qu'ils ont probablement des microbes. Ah oui, et ne cours pas parce que tu pourrais tomber. En fait, reste debout dans ce coin jusqu'à ce qu'on parte. » Ça, c'est l'abîme des pharisiens. Qui se moquent de l'Évangile en ajoutant à l'Évangile des règles qui n'y appartiennent pas. Nous pouvons rire, oui, c'est drôle, et nous moquer des pharisiens et de leurs règles ridicules. Mais en fait, il est fort probable que nous ayons un petit pharisien en nous-mêmes. Faites attention. Ou peut-être que nous souffrons d'un autre problème, peut-être à l'image d'un autre genre de voleur qui détruit le troupeau, peut-être que nous sommes tombés dans l'abîme de la mondanité ou l'immoralité, et que nous y avons entraîné le troupeau avec nous. Peut-être que notre problème ne sont pas les règles, mais plutôt un manque de considération pour la grâce de Dieu et pour l'œuvre de l'Esprit-Saint dans notre vie. On couche avec sa petite amie avant de se marier parce que le monde le fait. On est paresseux, on triche avec ses impôts, on ment à son épouse, on vole à son employeur, on regarde des films remplis de sexualité et de violence qui dégradent l'image de Dieu en l'homme. On souscrit aux normes du monde plutôt qu'à celles de notre Seigneur et on vit comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est comme la mère qui dit à son garçon dans l'air de jeu, « Va jouer et va faire des bêtises, En fait, fais-toi mal et tue-toi. C'est sûr que nous marchons sur un chemin très étroit en tant que chrétiens. Ça me fait penser à l'histoire d'Ulysse dans l'Odyssée. Peut-être vous vous souvenez de cette histoire dans la mythologie grecque. À son retour en Grèce, après la guerre de Troie, Ulysse était obligé de passer avec son navire dans un détroit. Le problème, c'est qu'il y avait deux monstres de part et d'autre qui gardaient le détroit. C'était des nymphes transformées en monstres, qui s'appellent Scylla et Charybde. Si le bateau passait trop près de Scylla, elle dévorerait les marins avec ses six têtes pleines des dents tranchantes. Mais si le bateau passait trop près de Charybde, elle ouvrirait sa grande bouche et elle avalerait le bateau et les marins dans un grand tourbillon. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est encore plus effrayant quand c'est nous-mêmes qui avons tendance à être les monstres. Dans Jean chapitre 10, les voleurs sont partout. Mais qu'est-ce que les brebis font pour éviter le danger? Par la grâce de Dieu, elles écoutent la voix de Jésus, le bon berger. Par la grâce de Dieu, elles restent attachées à sa parole et demeurent sous sa protection et sa main. Elles n'ajoutent rien à sa parole et elles n'ignorent pas non plus sa parole. Les voleurs, donc, dans ce texte, sont les autorités religieuses qui ignorent le plan rédempteur de Dieu, qui prêchent un faux évangile et qui blessent le troupeau dans leur ignorance et dans leur arrogance. Alors faites attention aux voleurs, mais faites aussi attention à son ami l'étranger. L'étranger est mentionné au verset 5. Il appelle les brebis. « Venez, suivez-moi, je vais vous guider. » Les brebis vont entendre la voix de l'étranger, parce qu'il est les étrangers partout. Mais les brebis ne vont pas nécessairement écouter et suivre sa voix. Jésus dit que si vous lui appartenez, vous n'écouterez pas la voix de l'étranger qui veut conduire les brebis loin de Dieu. Comme on l'a vu la semaine dernière, personne ne peut arracher ses brebis de la main de Jésus. Mais malgré cette assurance, l'étranger menace le troupeau. Pensez à vos amis, à votre famille qui ne connaissent pas Jésus. Si on ne suit pas Jésus, on suit la voie charmante de l'étranger. L'étranger prêche des doctrines contraires à l'Évangile. Il conduit les non-croyants vers de fausses religions. Il tente les croyants d'accepter la doctrine destructrice. Il dit aux croyants, « Ne t'inquiète pas, tu peux mélanger ta foi chrétienne avec d'autres croyances. Ce n'est pas un problème. » Il dit aux croyants, « Ne t'inquiète pas, tu peux faire du yoga par exemple. C'est une pratique hindoue qui demande à ce qu'on se vide l'esprit et l'intelligence au lieu de remplir son intelligence avec Christ. Et alors ?» L'étranger dit, ne t'inquiète pas, tu peux pratiquer l'astrologie. Après tout, ce n'est pas une religion. Dieu s'en fiche. L'étranger cherche à conduire le troupeau, mais il le conduit loin de Jésus. Il prêche la fausse religion. Dans le livre d'un roi, dans l'Ancien Testament, on trouve l'histoire d'Élie. Des prophètes de Baal. Baal, c'est le faux dieu du pays de Canaan. Le peuple avait été dévoyé par les prophètes de Baal. Alors Élie lance un défi contre ces prophètes. On va construire deux autels, un pour Baal et un pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si Baal vient mettre le feu à son autel, il est le vrai Dieu. Mais si l'Éternel vient mettre le feu à son autel, il est le vrai Dieu et vous êtes morts. Donc, d'un côté, on a les 450 prophètes de Baal, bien habillés, bien nourris et bien payés. Mais de l'autre côté, on a le prophète Élie, sous-alimenté, sous-payé et un peu sale, comme notre pasteur Alex. Mais, je plaisante, mais à la manière de l'étranger, dans notre texte, les prophètes de Baal prient toute la journée en espérant que Baal se manifestera pour continuer à dévoyer le peuple de Dieu. Mais Élie se moque d'eux en disant, « Mon Dieu est là, où est le vôtre? Est-ce qu'il est en vacances? Est-ce qu'il dort? Peut-être il est occupé à quelque chose de très très important. Mon Dieu l'Éternel est sur son trône dans les cieux. Je pense que votre Dieu est sur son trône, mais son trône à lui est équipé d'un chasse d'or. Peut-être qu'il a quelques difficultés. Peut-être qu'il a mangé un peu trop de fromage français bien sûr. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire. Le Dieu d'Israël est venu et il a mis le feu à l'autel. Il a prouvé sa puissance. Mais peu de temps après ce miracle extraordinaire, seulement quelques jours après, Élie avait peur d'être le seul homme vivant qui était encore fidèle à Dieu. Il avait peur que tout le monde ait suivi les étrangers. Mais non, Dieu a préservé ses élus. 7000 personnes, nous dit le texte. Ces brebis connaissent la voie du bon berger et ne suivent pas les fausses religions. Et nous, devons faire attention aux étrangers. Mais nous devons aussi avoir l'assurance que le bon berger garde ses brebis. Alors, l'étranger pose un problème pour le troupeau. Mais il y a quelqu'un de pire. C'est le mercenaire. Pourquoi? Parce qu'il est censé être quelqu'un de bien. Il est censé conduire et protéger le troupeau. Il est censé aider le bon berger. Mais regardez les versets 12 et 13. Qu'est-ce qui caractérise le mercenaire? Le mercenaire abandonne les brebis. Il s'enfuit quand le loup arrive. Il ne se met pas en peine des brebis. Le mercenaire pense seulement à lui-même. Dans ce texte, le mercenaire, c'est quelqu'un qui fait son travail assez bien quand tout se passe bien. Mais quand il fait face à la difficulté, il abandonne le troupeau en pensant à sa propre sécurité et à son propre bien-être. Ésaïe chapitre 56 décrit le mercenaire en disant « Israël, ses guetteurs sont tous aveugles. Ils ne reconnaissent rien. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Venez, je vais chercher de vin et nous nous enivrerons de liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain. Il en reste en grande abondance. » Le mercenaire, c'est le pasteur qui prêche les fausses évangiles. Il ignore l'évangile. Il prêche l'évangile de la prospérité, par exemple. Il est le pasteur qui est debout devant l'assemblée avec un grand sourire et qui vomit ses âneries sur les gens en disant « Dieu veut que vous soyez riches. Dieu veut que vous ayez une grande maison. Dieu veut que vous n'ayez jamais de difficultés dans la vie. Dieu veut que vous ayez la plus belle voiture, la plus belle femme, les plus belles possessions. » Ah bon? Quelles sont ses sources? Je pensais que la Bible disait « Bénis les pauvres en esprit, bénis ceux qui sont doux, bénis ceux qui ont le cœur pur et qui sont persécutés à cause de la justice. » Je pensais que la Bible disait « Heureux et bénis les hommes dont la force est en Dieu. » C'est sûr que Dieu peut nous bénir avec des bénédictions matérielles. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais notre plus grande et véritable richesse, c'est notre relation avec lui. Ézéchiel chapitre 34 dit, Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les brebis grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades. Le mercenaire ne fait pas le travail difficile. Il cherche toujours des excuses. Il évite les doctrines qui offensent. Et il ne prêche pas la parole. Il ignore la doctrine de l'élection. Il ignore la doctrine du jugement de Dieu. Il ignore la doctrine de l'enfer. Il ignore les actes surnaturels de Dieu. Il a peur de prêcher la croix parce que, peut-être, qu'il scandaliserait quelqu'un. Je connais un pasteur à qui on a demandé dans un entretien à la radio s'il croyait que la foi en Jésus était nécessaire pour le salut. Mais il a répondu en disant, « Ce n'est pas à moi de juger le cœur des autres. » Une deuxième fois, le présentateur lui a demandé s'il croyait que la foi en Jésus était nécessaire pour le salut. Et une deuxième fois, ce pasteur a répondu, « Dieu aime le monde et il connaît le cœur des gens. » Ce soi-disant pasteur a nié la croix. Il a nié la croix de Jésus-Christ. Il a évité une occasion d'annoncer clairement l'Évangile. Les versets 12 et 13 servent donc d'avertissement. C'est un avertissement pour nos pasteurs, pour nos anciens, pour les personnes qui nous conduisent en général. C'est un avertissement pour moi, pour nous. Ce que nous croyons est scandaleux. Et si nous ne prêchons pas les textes scandaleux, si nous ne prêchons pas la croix de Jésus-Christ, alors peut-être c'est nous, les mercenaires. Dans Luc chapitre 6, Jésus dit, « Malheur à vous lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. » C'est fort, n'est-ce pas? Notre responsabilité est de rester fidèle à l'Écriture pour la bonne instruction de troupeau. Alors, le quatrième danger qui menace les brebis, c'est le loup. Selon le verset 12, le but de loup, c'est de s'emparer des brebis et de disperser le troupeau. Le loup, c'est le gars qui sème le trouble dans l'Église. C'est le gars qui cherche la controverse partout. C'est le gars qui pense qu'il est plus qualifié que les anciens et qui en fait part à tout le monde. C'est le gars qui détruit le ministère des autres. C'est le gars qui rôde d'église en église pour chercher des brebis à blesser. 1 Timothée 6 dit que le loup est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, la calomnie et les mauvais soupçons. J'ai déjà vu quelques loups dans les églises, ils sont toujours déguisés en brebis ou en berger, toujours. Mais le problème pour le loup déguisé, c'est qu'il ne peut pas rester déguisé très longtemps. S'il parle comme un loup et s'il agit comme un loup, on devrait le reconnaître tout de suite. Je lis souvent les contes de fées à mes enfants. Désolé, j'utilise un autre conte de fées, mais peut-être parce que je ne suis pas très créatif avec des illustrations. Mais en tout cas, c'est l'histoire que je n'aime pas vraiment, c'est l'histoire de Petit Chaperon Rouge. Et je vous explique pourquoi je n'aime pas cette histoire. Vous connaissez l'histoire, le loup mange la grand-mère, s'habille avec ses vêtements, s'allonge dans son lit, et attend la petite fille. Ok. Le petit chaperon rouge entre dans la maison de sa grand-mère et elle trouve quelqu'un dans le lit. C'est qui? Elle dit, « Oh là là, grand-mère, tes oreilles ressemble à des oreilles de loup. Tu as un gros nez qui ressemble à celui qu'un chien sauvage. Oh là là, grand-mère, quelles grandes pattes tu as, avec d'affreuses griffes. Ton visage est couvert de poils, mais peut-être que tu as oublié de te raser ce matin. Tu as des grosses dents dans ta bouche, mais peut-être c'est son dentier. En fait, tu ressembles beaucoup à un loup. Mais bon, c'est pas un problème, fais-moi un câlin. C'est fou. C'est absurde, n'est-ce pas? Si ça ressemble à un loup, c'est parce que c'est un loup. Et il faut lui tirer dessus avec un fusil, un grand fusil, un fusil américain, tout de suite. Écoutez ce que l'Éternel dit au loup déguisé en berger, dans Jérémie 23. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, qui disséminent et chassent mes brebis. Malheur. Vous voyez, les bergers d'Israël étaient des loups déguisés. C'est grave et c'est effrayant. C'est une invitation adressée à toutes les brebis et à tous les bergers de l'Église de se regarder dans le miroir de temps en temps et à vérifier que nos traits sont toujours les traits d'une brebis et pas ceux d'un loup. La pire chose que nous puissions faire, c'est de laisser les loups faire ce qu'ils veulent au milieu des brebis. Les brebis sont perpétuellement en danger. Mais est-ce qu'il y a un espoir pour nous? Bien sûr. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons un bon berger qui nous guide, qui nous protège et qui nous aime. Je voudrais mentionner trois façons dont notre bon berger nous protège de ces dangers. D'abord, le bon berger Jésus-Christ nous a donné des bergers dont le rôle est de guider son troupeau. Ce sont les anciens et les pasteurs. Leur travail est de nourrir les brebis comme Jésus l'a dit à Pierre. « Prends soin de mes agneaux. » Ou comme Paul l'a dit à Timothée, « Garde le bon dépôt. » Dieu pourvoit les bergers pour notre bien et nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour nos pasteurs afin que Dieu les utilise pour sa gloire et pour enseigner fidèlement la vérité de l'Évangile, de l'Écriture. Nous devons prier pour nos anciens de même. Un jour, bientôt, j'espère, nous allons consacrer des anciens dans cette Église et nous devons prier maintenant pour ces hommes. Nous devons aussi prier pour le discernement nécessaire afin de reconnaître les voleurs, de fuir loin des étrangers, d'ignorer les mercenaires et de tirer sur les loups. Nous pouvons lutter contre ces dangers par la prière. Donc la prière, c'est très important. Ensuite, nous devons observer et imiter les brebis qui sont matures ou mûres, qui sont fidèles et qui suivent la voie du bon berger. Il y a toujours des loups dans les troupeaux, mais vous devez identifier les brebis qui restent près du bon berger et vous devez rester près de ces brebis. Il y a des choses à apprendre de la part des chrétiens expérimentés et mûrs. Enfin, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Sa parole est comme un beau pâturage verdoyant. C'est notre nourriture en tant que brebis. Nous lisons dans les psaumes que la parole de Dieu, c'est comme le miel dans la bouche. Nous lisons encore dans Deutéronome chapitre 8 que notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons et étudions la Bible fidèlement et avec persévérance, nous allons apprendre à résister aux dangers qui nous menacent. Si nous lisons et étudions la Bible fidèlement et avec persévérance, nous allons apprendre à reconnaître la voix du bon berger. Comme nous l'avons vu dans ce texte, nous les brebis, nous sommes perpétuellement en danger. Mais par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de suivre le bon berger. Si nous croyons en Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix, nous entrons dans sa bergerie et sous sa protection. Les dangers sont nombreux, mais nous avons un bon berger qui nous aime. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, nous te remercions pour la façon dont tu protèges ton troupeau. Nous te remercions pour la façon dont tu nous guides et dont tu nous donnes des bergers fidèles, les bergers fidèles à ta parole. Donne-nous maintenant le discernement afin de reconnaître les voleurs, les étrangers, les mercenaires et les loups, et afin de résister à l'appel de leur voix. Nous te prions pour ce troupeau et pour nos bergers. Protège-nous dans ta grâce et par ton autorité et conduis-nous vers de bons pâturages. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur, notre soutien. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.